France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Si Nadia Boulanger, éminente professeure de composition, a connu toute une génération d'artistes et de compositeurs, nul lui fit une impression aussi forte qu'Igor Stravinsky. Que ce soit son œuvre ou son charisme inhérent, qui ne laissait apparemment personne indifférent, c'est sans doute l'un des personnages et amis qui la marqua le plus. Dans ce 8e entretien, au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, enregistré en 1976, elle raconte qui était véritablement le mystérieux génie russe, duquel elle fut très proche. Elle évoque notamment la rencontre de deux opposés, Stravinsky et Paul Valéry, le premier étant très religieux, le deuxième ne parlant jamais de religion. Une connivence s'installe pourtant entre les deux, ce qui ne surprendra pas les rares qui se sont plongés dans les cahiers de Valéry, où la phrase « cache ton Dieu » revient comme un leitmotiv, lui qui prenait, presque secrètement, une mystique sans Dieu. On y entend aussi parler de Ravel, du génie, et d'une fin toujours plus dévorante pour l'invention. Nadia Boulanger, dans toute sa splendeur, donc, dans un entretien diffusé pour la première fois le 9 août 1978.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres, Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots « Elle est la musique en personne. » Saint John Perse.
Stravinsky est un grand, grand être humain et profondément humain. Il n'était pas un homme qui faisait des confidences pour rien. Il faisait peut-être des confidences parce qu'un jour le besoin de parler dominait. Mais ça ne se passait pas par beaucoup de mots. Les lettres de Stravinsky sont très courtes. Et puis un beau jour, il écrit une lettre plus longue. C'est la même histoire, d'une manière très différente, avec Valéry. Puisque combien de fois n'avons-nous pas eu des petits dîners, 6 personnes, où étaient présents et Valéry et Stravinsky. Il y a un seul sujet sur lequel il y avait silence d'un côté et effusion de l'autre. C'est sur le côté religieux. Parce que Stravinsky était fanatiquement religieux et Valéry ne parlait pas de religion. Mais jamais Valéry n'a fait une discussion sur une des paroles de Stravinsky. Tant que Stravinsky était dans son idée du péché, de l'idée de Dieu, Valéry ne disait rien, il reprenait la conversation après. Mais jamais il n'a entrepris de dire « Mais comment pouvez-vous croire ceci? Comment pouvez-vous pratiquer cela ?» J'ai senti très bien qu'il sentait qu'il était devant du vrai, devant l'authentique. Et l'authentique inspirait son respect. Il parlait que rarement de l'essentiel. Et alors, entre les conversations que nous avons eues, Valéry habitait la propriété d'Héroir, qui était à 5 minutes de chez nous, à Gargenville, en Seine-et-Oise. Et quelquefois, je le rencontrais sur le chemin, on s'arrêtait. En parlant, il faisait des cercles avec sa cam. Et au fur et à mesure qu'il approchait de l'essentiel de son sujet, de la vérité intérieure, le cercle se resserrait. Et c'est la même chose chez Stravinsky. Avec une expression de foi si intense chez Stravinsky que ça crée un type d'homme tout à fait différent. J'ai bien connu sa charmante vieille maman, qui était un peu étonnée d'avoir un fils si différent de ce qu'elle était elle-même. Mais de voir Stravinsky devant sa mère, c'est une des choses les plus émouvantes que je puisse imaginer. Debout, les talons joints, avec le bruit caractéristique, pac, et ça claquait. Et si elle n'offrait pas de s'asseoir, il restait debout. Mais il avait 55 ans. Il était une gloire dans le monde entier, mais il restait debout devant sa mère, comme ses fils restent debout devant lui.
C'était la tradition russe ou...
C'est la tradition russe, c'est la tradition d'eux-mêmes.
C'est extraordinaire.
Et alors, cet amour, n'est-ce pas, Sulima et Théodore ont eu tout à fait raison de publier cet album avec des photographies de famille, parce qu'on voit comment il a été avec ses enfants. Alors quand vous lisez des œuvres de Bach, je ne sais pas vous, mais moi je sais qu'il m'arrive rarement de me dire « Ah voilà, je suis dans leur maison, il y a 21 enfants ». Je pense pas à ça. Je pense à la Passion sans saint Matthieu, ou à un petit prélude, une petite invention. Mm-hmm. Mais je ne m'occupe pas de la vie privée. Et je crois que Stravinsky n'avait pas envie que l'on s'occupe pas de sa vie privée. Alors il dit, il n'y a pas de sentiment. Il vous laisse à la porte.
Et en même temps, on a l'impression que ça concerne une certaine partie de son œuvre, qu'il y a un aspect de jeu dans la composition de Stravinsky.
Mais il y a toujours un jeu dans toute entreprise humaine.
Mais là en particulier. Et chez Ravel, on a l'impression que c'est la fabrication du mécanisme qui l'intéresse plus que
ça. Oui, mais vous comprenez, c'est un point qui l'intéresse. Mais il est Ravel, et Ravel, c'est pas qui est Ravel. Moi, j'ai connu Ravel beaucoup et pas du tout. Parce que le lien qui crée la communication ne s'est malheureusement pas établi. J'ai eu très bonne relation, il a été très gentil. Mais le Ravel secret, que peut-être personne n'a connu, c'est celui-là qui a créé de toute pièce la personnalité musicale. Mais la personnalité musicale, il s'est occupé du bien-faire, du métier. Alors c'est la force intérieure qui était si grande chez Stravinsky qu'elle l'isole. Elle l'isole. Et alors, il pouvait tout d'un coup jouer à un jeu de cartes et jouer, mais un peu isolé des autres, parce qu'il joue le jeu si sérieusement que personne n'attache autant d'importance.
Donc, si vous parlez de Stravinsky, en fait, il y a d'un côté le compositeur, d'un autre côté l'homme. C'est-à-dire que vous ne faites pas une séparation entre les deux.
Ah, mais oui, je fais une immense séparation, parce qu'au moment où il pense à Circus Polka, il est un autre Stravinsky que quand il écrit la symphonie de psaume. Mais d'autre part, c'est parce qu'il peut écrire la symphonie de psaume que la Circus Polka devient ça, devient ce qu'elle est.
Oui, c'est la même signature, finalement.
C'est la même qualité employée sur un autre objet. Et à vrai dire, vous n'avez pas besoin de connaître la biographie des gens. Vous connaissez leur biographie dans leur comportement, dans leur réaction, à un moment ou à un autre. Au moment où Stravinsky est parti pour la Russie, il m'a dit, je sais qu'il faut aller, mon esprit me dit qu'il faut aller, mais j'ai peur. Il y avait 55 ans qu'il n'avait pas été en Russie.
Lorsqu'il y est retourné, il y a 10
ans. Mais
il
a eu peur de reprendre contact, de revoir quelqu'un après beaucoup d'années. Mmh. Sera-t-il changé? Sera-t-il lui-même? Serai-je moi-même? Ce qui est terrible, c'est quand on retrouve quelqu'un qu'on a aimé passionnément et qu'on ne reconnaît plus.
J'imagine alors là qu'il est indispensable pour un compositeur d'oublier ce qu'il a fait auparavant.
Mais je crois qu'il n'a même pas besoin d'oublier, je crois qu'il l'oublie. Stravinsky, vous disiez, enfin ils sont extraordinaires ces gens, ils condamnent mes dernières œuvres, et ils ne voient pas que dans l'une de mes dernières œuvres, dans une mesure, il y a plus de musique que toutes les anciennes. Alors pour lui, il était arrivé à une autre expression. Alors vous vous souvenez, je crois que nous l'avons dit l'autre jour, Cocteau, un artiste original ne peut pas copier. Donc, il n'a qu'à copier pour être original. C'est d'une insolence, d'une ironie et de nous traiter par-dessus la jambe, admirable. Admirable. Parce que c'est une de ses paroles extraordinaires. Un artiste original ne peut pas copier. Donc, il n'a qu'à copier pour être original. Dès que Stravinsky prend, il écrit à la manière de Tchaïkovski, ou de Rossini, ou de ce qui vous voudrez, et c'est Stravinsky.
Thank you.
croyez que l'évolution de Stravinsky est quelque chose de tout
elle
à fait...
Elle est immense.
Elle est immense, mais
est-ce qu'elle... Elle est extraordinaire, mais elle est... Tout ce qu'il touche lui appartient.
Mais elle est en ligne droite.
Écoutez, Ramu a écrit une phrase qui est très frappante. Il dit, vous êtes arrivé, vous m'avez montré des choses que je n'avais jamais vues. Vous, un étranger. Mais que dis-je? Vous n'êtes un étranger nulle part sur Terre. Alors il n'y a pas un Stravinsky à Paris, un Stravinsky à New York, un Stravinsky à San Francisco. Il y a Stravinsky qui est capable de s'assimiler Paris, New York, Helsinki, la Pologne, le monde entier, la Lune, en restant Stravinsky. Je crois que c'était une nouvelle curiosité assouvie.
Et tout le monde a détecté quand même une rupture dans son œuvre.
Mon cher, vous jouez la première sonate de Beethoven. Toute la tragédie qui va nous mener à la 9e symphonie est là. Vous prenez la 2e sonate. La vie, Bariam. La femme, Bariam. Et vous avez tout d'un coup la comédie italienne. Mm-hmm. Ben, c'est tout, c'est le même Beethoven, mais le Beethoven qui regarde à gauche ou qui regarde à droite.
Et à votre avis, chez Stravinsky, il y a une curiosité totale concernant la musique qui voulait expérimenter tout.
Expérimenter, je ne dirais pas expérimenter. Il était anxieux de comprendre le maniement de cet outil, ou, dans certains cas, de forger l'outil qu'il lui fallait. Mmh. Il faut bien que je trouve les outils nécessaires, j'ai besoin d'un autre outil pour ça. Alors, il ne cherchait pas ce qu'il voulait dire, il cherchait le moyen de le dire. Je vois la même chose chez Bach. Je vois tout d'un coup, Monsieur Jean-Sébastien Bach va jouer pour Frédéric Legrand. Il trouve qu'il aurait pu faire encore autre chose, après avoir improvisé chez le droit. Il commence à écrire le Ricercare, les canons. Alors les canons qui sont un monstre d'intérêt intellectuel, c'est épouvantable, c'est poser des problèmes auxquels il n'y a pas de solution. Et puis il trouve une solution. Et puis nous sommes en 1976, et il y a encore de ces canons de l'offrande musicale qu'on peut lire de deux manières différentes. On n'est pas sûr. Alors là, il y a un intérêt purement intellectuel. Mais comme on est devant un immense musicien, ici et là, ressort la valeur. Et j'hésite devant les mots que je vais employer parce qu'ils dépassent les mots du vocabulaire humain. Le moment où un homme, tout fragile qu'il est, tout misérable qu'il est, a une prescience, a une notion des mystères qui l'entourent, et il nous les ouvre, il nous les apporte, il nous les rend sensibles. C'est aussi étonnant d'avoir ce que voudrait le dernier chœur de la Passion selon saint Matthieu, ou d'avoir les canons de l'offrande musicale, ou la fugue renversable, tout renversable, c'est monstrueux intellectuellement. On le joue comme ça, on le renverse à l'envers, tout ça, ça continue à marcher. Vous vous rendez compte ce que ça représente comme maîtrise de soi, comme technique sans limite. N'est-ce pas, il y a chez certains êtres une faim inassouvie de découvrir. D'une part, ils inventent, et d'autre part, ils connaissent les propriétés du langage. Donc d'un côté, ils sont l'obéissance même, et de l'autre, la liberté même. Et c'est l'amalgame des deux qui, je crois, fait une œuvre complète. Elle satisfait l'esprit, elle satisfait cette curieuse chose qui est l'émotion artistique. Alors, si vous trouvez dans l'œuvre de n'importe quel grand compositeur des traits qu'on retrouve toujours, ce sont probablement les traits involontaires qui sont l'être même qui s'exprime.
Thank you.
lorsque je vous écoute parler de ce problème d'une certaine distanciation de la musique vis-à-vis de l'auteur, vis-à-vis de son contenu même, est-ce que ça n'est pas à rapprocher de ce que dit Stravinsky sur la musique? La musique n'exprime rien.
Oui, mais ça, il s'est protégé. Moi, j'ai pas envie que vous m'ennuyiez. Alors je lui ai écouté, ça, on n'en parle pas.
Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d'instituer un ordre dans les choses, y compris et surtout un ordre entre l'homme et le temps. Pour être réalisé, il exige donc nécessairement et uniquement une construction. La construction faite, l'ordre atteint, tout est dit. Il serait vain d'y chercher ou d'en attendre autre chose. C'est précisément cette construction, cet ordre atteint, qui produit en nous une émotion d'un caractère tout à fait spécial, qui n'a rien de commun avec nos sensations courantes et nos réactions dues à des impressions de la vie quotidienne. On ne saurait mieux préciser la sensation produite par la musique qu'en l'identifiant avec celle que provoque en nous la contemplation du jeu des formes architecturales. Goethe le comprenait bien, qui disait que l'architecture est une musique pétrifiée. Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit. Un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. La raison d'être de celle-ci n'est d'aucune façon conditionnée par celle-là. Si, comme c'est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est qu'une illusion et non pas une réalité. C'est simplement un élément additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêté, imposé, comme une étiquette, un protocole. Bref, une tenue. Et que, par accoutumance ou inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son essence. Chronique de ma vie, Igor Stravinsky.
Mais il avait l'air d'y tenir.
Oui, mais il avait l'air d'y tenir en parole. Mais les paroles de Stravinsky, j'en prends et j'en laisse.
Ah, vous croyez qu'il pouvait dire des choses qui n'avaient pas une signification réelle vis-à-vis de son œuvre?
Oh, c'est pas ça, c'est plus complexe que ça. Je crois qu'il avait d'abord le besoin, je vous disais, de protection. Il n'aimait pas la familiarité. Il pouvait être très intime, mais pas familier. Alors, de parler de musique...
Il s'est pourtant expliqué sur un certain nombre de ses œuvres.
Oui. Enfin, je ne ferai pas de rapprochement entre les œuvres et les commentaires. Quelles sont les raisons pourquoi il l'a fait? Bon, je ne sais pas. Nous avons parlé de tout ça très, très souvent. Et il savait bien que l'essentiel ne peut pas se traduire avec des mots.
J'ai lu la notice qui accompagne ce disque de Stravinsky,
oui,
où il joue ses propres œuvres. Stravinsky dit « Je suis heureux de faire ce contrat avec cette marque de disque parce que de cette manière, je pourrais fixer pour les générations futures mes intentions exactes et mieux que sur le papier. »
Oui, mais ça, c'est tout à fait un autre domaine. Nous parlons d'autre chose. C'est comme si vous écrivez vos doigtés pour être sûr de ne pas rater la note. C'est très important, mais ça n'a rien à voir avec l'esprit même de l'œuvre.
C'est une certaine manière de commentaire, quand même, par rapport à l'œuvre.
En quoi? Quel commentaire? Racontez-moi, je n'ai pas compris. Il enregistre comme il veut, mais il ne commente pas du tout. Comment il prend le premier accord?
Il n'utilise pas des mots pour faire ce commentaire, mais il utilise ses doigts.
Mais vous
dites
simplement, monsieur, voulez-vous parler plus vite que ça ou pas plus lentement? Voulez-vous jouer un do, pas un ré? Voulez-vous mettre la pédale ou pas mettre la pédale? Ça, il me donne des instructions. Il me donne son adresse.
Thank you. Thank you.
C'était le 8e entretien avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 9 août 1978.